Tistou les pouces verts, 5. Où Tistou, à propos de la guerre, se pose de nouvelles questions. Quand les grandes personnes parlent à voix haute, il arrive que les petits garçons ne les écoutent pas. « Tu m'entends, Tistou ?» Et Tistou de répond « Oui, oui », avec la tête pour paraître obéissant alors qu'il n'a fait aucune attention. Mais dès que les grandes personnes commencent à baisser la voix et à se confier des secrets, le petit garçon aussitôt tend l'oreille et cherche à comprendre justement ce qu'on ne voulait pas leur dire. En cela, ils sont tous les mêmes, et Tistou ne faisait pas exception. Depuis quelques jours, on chuchotait beaucoup à Mirepoix. Il y avait du secret dans l'air et jusque dans les tapis de la maison qui brille. Monsieur Père, Madame Mère poussaient des longs soupirs en lisant les journaux. Le valet Carolus, Madame Amélie la cuisinière, murmuraient autour de la machine à laver. Et même Monsieur Trounadis semblait avoir perdu sa voix de trompette. Tistou saisissait au vol des mots qui avaient mauvaise mine. « Tension !» disait Monsieur Père d'un ton grave. « Crise !» répondait Madame Mère. « Aggravation, aggravation !» ajoutait Monsieur Trounadis. Tistou crut qu'on parlait d'une maladie. Il se fit beaucoup de soucis et partit les pouces en avant pour découvrir qui était malade dans la maison. Un tour de jardin lui prouva qu'il se trompait. Moustache se portait à merveille. Les pursans groseilles gambadaient dans la prairie, gymnastique présentait les signes de la meilleure santé. Mais le lendemain, un autre mot était sur toutes les lèvres. « Guerre !» C'était inévitable, disait Monsieur Père. « Guerre, les pauvres gens !» faisait Madame Mère en balançant la tête d'un air désolé. « Guerre, et voilà, une de plus !» remarqua Monsieur Trounadiste. « Reste à savoir qui va la gagner. »« Guerre, quelle pitié, ça n'en finira donc jamais !» gémissait Madame Amélie, prête à pleurer. « Guerre, guerre, toujours les guerres !» répondait le valet Carolus qui avait, oui, vous le savez, un léger accent étranger. L'idée que Tistou se fit de la guerre fut celle d'une chose pas propre, puisqu'on n'en parlait qu'à voix basse. Une chose laide, une maladie des grandes personnes, pire que l'ivrognerie. Plus cruelle que la misère, plus dangereuse que le crime. Déjà, M. Trounadis lui avait un peu parlé de la guerre en lui montrant le monument aux morts de Mirepoix. Mais comme M. Trounadis avait parlé trop fort, Tistou n'avait pas très bien compris. Tistou n'avait pas peur. Ce garçon-là était le contraire d'un poltron, on pouvait même le juger imprudent. Vous avez déjà vu comme il se laissait glisser le long de la rampe? Lorsqu'on allait se baigner à la rivière, il fallait l'empêcher de se jeter 10 fois de suite du haut du plongeoir des champions. Il prenait son élan et hop, le voilà en l'air. Les bras écartés faisant le son de l'ange. Il grimpait aux arbres comme personne. Jusque sur les dernières branches, pour aller cueillir les cerises que nulle autre main ne pouvait atteindre. Il ignorait le vertige. Non, vraiment, Tistou n'était pas peureux. Mais l'idée qu'il se faisait de la guerre n'avait rien à voir avec le courage ou la peur. C'était une idée insupportable, voilà tout. Il voulut se renseigner. La guerre était-elle une chose aussi horrible qu'il se l'imaginait? Naturellement, il alla d'abord consulter Moustache. « Je ne vous dérange pas, monsieur Moustache ?» demanda-t-il au jardinier qui taillait les buis. Moustache posa sa cisaille. « du tout, mon garçon. Monsieur Moustache, la guerre, qu'est-ce que vous en pensez ?» Le jardinier parut surpris. « Je suis contre, » répondit-il en se tirant les moustaches. « Pourquoi êtes-vous contre ?»« Parce qu'une petite guerre de rien du tout peut anéantir un très grand jardin. »«
Anéantir, qu'est-ce que ça veut dire ?»«
Cela veut dire détruire, supprimer, réduire en poussière. »«
Vraiment ?» Et vous en avez vu, vous, Monsieur Moustache, des jardins anéantis par la guerre, dit Tistou.
Cela lui paraissait à peine croyable, mais le jardinier ne plaisantait pas. Il avait la tête baissée, fronçait ses gros sourcils blancs et tordait sa moustache entre ses doigts.
Oui, oui, j'ai vu ça, répondit-il. J'ai vu mourir en 2 minutes un jardin plein de fleurs. J'ai vu les serres sauter en 1000 morceaux, et tant de bombes tomber dans ce jardin, qu'il a fallu renoncer pour toujours à le cultiver. Même la terre était morte. Tistou avait la gorge serrée.
Et à qui était-il ce jardin ? Demanda-t-il encore.
À moi, répliqua Moustache qui se détourna pour cacher son chagrin et reprit sa cisaille.
Tistou resta un instant silencieux. Il réfléchissait. Il tâchait de se représenter le jardin autour de lui, détruit comme l'avait été le jardin de Moustache. Les serres brisées et la terre interdite aux fleurs. Les larmes lui vinrent aux yeux.
« Eh bien, je vais aller le dire, » s'écria-t-il, « il faut que tout le monde le sache. Je vais aller le dire à Amélie, je vais le dire au valet Carolus. »
Carolus est encore plus à plaindre que moi, lui, il a perdu son pays.
« Son pays ? Il a perdu son pays à la guerre ? Comment est-ce possible ?»
C'est pourtant ainsi. Son pays a complètement disparu. Il ne l'a jamais retrouvé, c'est pour cela qu'il est ici.
J'avais bien raison de penser que la guerre était une chose horrible, puisqu'on peut y perdre son pays comme on perd un mouchoir, se disait Tistou.
« Je pourrais t'en compter encore long sur la guerre, » ajouta Moustache. « Tu parlais d'Amélie la cuisinière ? Eh bien, Amélie, elle a perdu son fils. D'autres perdent un bras, une jambe ou bien ils perdent la tête. Dans une guerre, tout le monde perd quelque chose. »
Tistou estima que la guerre était le plus grand, le plus vilain désordre qui puisse se voir au monde, puisque chacun y perdait ce à quoi il tenait le plus. « Que pourrait-on faire pour l'empêcher de passer ?» se demandait-il. « Monsieur Trunadis est sûrement contre la guerre, puisqu'il déteste si fort le désordre. Dès demain, je lui en parlerai. » Où Tistou prend une leçon de géographie suivie d'une leçon d'usine, et où le conflit entre les vas-y et les va-t'en s'étend de manière imprévue. Monsieur Trunadis était assis derrière son bureau. Il avait retrouvé sa voix de trompette et criait dans 3 téléphones à la fois. Monsieur Trunadis, cela se voyait, était très occupé. « C'est toujours ainsi, lorsqu'une guerre éclate quelque part dans le monde, » dit-il à Tistou. « À Mirepoix, nous avons le double du travail. » En effet, le matin, Tistou l'avait remarqué, la sirène de l'usine avait sonné 2 fois plus longtemps, et les ouvriers étaient venus 2 fois plus nombreux. Les 9 cheminées rejetaient tant de fumée que le ciel en était obscurci. « Alors je reviendrai quand vous aurez moins à faire, » dit Tistou. « Que voulais-tu me demander ?»« Je voulais savoir où cette guerre a éclaté. » Monsieur Trunadis se leva, amenant Tistou devant une map monde qu'il fit tourner et posa son doigt au milieu. « Tu vois ce désert ? » dit-il. « Eh bien, c'est là. » Tistou vit sous le doigt de Monsieur Trunadis une tache rose qui ressemblait à une dragée. « Pourquoi la guerre s'est-elle mise là, Monsieur Trunadis ?»« C'est très facile à comprendre. » Quand Monsieur Trunadis affirmait que quelque chose était facile à comprendre, Tistou se méfiait. Généralement, c'était très compliqué. Mais cette fois, Tistou était bien décidé à écouter. « Très facile, » répéta M. Trunadis. « Ce désert n'appartient à personne. »« À personne ?» répéta intérieurement Tistou. « Mais à droite se trouve la nation des Vasi, et à gauche la nation des Vatans. »« Vasi, Vatans, » se répéta encore Tistou. Il était vraiment bien attentif. Or, voici quelque temps, les Vasi ont annoncé qu'ils voulaient ce désert. Les Vatans ont répondu qu'ils le voulaient aussi. Les Vasi se sont installés sur le bord, les Vatans sur le leur. Les Vasi ont envoyé un télégramme aux Vatans pour leur dire de s'en aller. Les Vatans ont répliqué par radio qu'ils interdisaient aux Vasi de rester. Maintenant, les armées sont en marche et quand elles se rencontreront, elles vont se battre. « Qu'y a-t-il dans cette dragée rose, je veux dire dans ce désert ? Des jardins ?» demanda Tistou. « Mais non, puisque c'est un désert, il n'y a rien du tout, il y a des pierres. »« Alors ces gens font se battre pour des cailloux ?»« Ils veulent posséder ce qui est en dessous. »« Sous le désert, qu'est-ce qu'il y a ? Du pétrole. »« Pourquoi le veulent-ils, ce pétrole ? » Ils le veulent pour que les autres ne l'aient pas. Ils le veulent ce pétrole parce que le pétrole est indispensable pour faire la guerre. Tistou savait bien que les explications de M. Trunadis finiraient par être très difficiles. Il ferma les yeux pour mieux réfléchir. Si je comprends bien, les Vasi et les Vatans vont se faire la guerre à cause du pétrole parce que le pétrole est indispensable à la guerre. Il ouvrit les yeux. Eh bien c'est idiot, déclara-t-il. Les oreilles de M. Trunadis devinrent écarlates. Tistou, est-ce que vous voulez un zéro ? « Non, répondit Tistou, mais je voudrais surtout que les Vasi et les Vatans ne se battent pas. » Cette preuve de bon cœur apaisa provisoirement la colère de M. Trunadis. « bien sûr, dit-il en haussant les épaules, personne ne voudrait qu'il y ait la guerre, jamais, mais cela a toujours existé. »« Que pourrais-je bien faire ?» pensa Tistou. « Mettre mes pouces sur la tache rose ? Est-ce loin ce désert ? » demanda-t-il. « À moitié chemin entre ici et l'autre côté de la terre. » Alors la guerre ne peut pas arriver jusqu'à Mirepoix. Ce n'est pas impossible. On sait où une guerre commence, on ne sait jamais où elle s'arrête. Les Vasi peuvent appeler à leur secours une grande nation. Les Vatans demander l'aide d'une autre. Et les 2 grandes nations se battront. C'est ce qu'on appelle une extension de conflit. La tête de Tistou sonnait comme un moteur. Oui, en somme, la guerre est une espèce d'affreux chien dent qui pousse sur la map monde. Par quelle plante pourrait-on la combattre ? Maintenant, tu vas m'accompagner à l'usine, dit M. Trunadis. Tu la verras en plein rendement, ce sera une bonne leçon. Il cria quelque chose dans ses 3 téléphones et descendit en compagnie de Tistou. Celui-ci fut d'abord assourdi par le bruit. Les marteaux pilons frappaient à toute force, les machines ronflaient comme des millions de toupies. Il fallait crier pour se faire entendre même quand on avait la voix de M. Trunadis. Tistou fut également aveuglé par les gerbes d'étincelles qui jaillissaient de partout. L'acier fondu coulait par terre en gros ruisseaux brûlants. Il faisait une chaleur étouffante et les hommes dans cette usine immense paraissaient tout petits et tout noirs. Après l'atelier de fonderie, Tistou visita les ateliers de polissage, de tournage, de montage, les ateliers de fusils, de mitrailleuses, de chars, de camions, car l'usine de M. Père fabriquait tout ce qui servait à la guerre, armes et munitions. Le lendemain était jour de livraison et l'on empaquetait le matériel avec autant de précaution que si l'on avait emballé de la porcelaine. Enfin, M. Trunadis montra à Tistou 2 grands canons, longs comme des tours de cathédrale et tout luisants, à croire qu'on les avait entièrement beurrés. Suspendus à des chaînes, les canons passaient lentement en l'air. puis ils furent déposés doucement, doucement, sur des remorques de camions. Des remorques dont on ne voyait pas le bout.
« Ce sont ces canons-là, Tistou, qui ont fait la richesse de Mirepoix, » cria M. Tournalis. « Ils peuvent démolir, à chaque obus tiré, 4 maisons, grandes comme la tienne. »
Cette nouvelle ne parut pas inspirer à Tistou la même fierté.
Alors, pensa-t-il, à chaque 4 coups de canon, 4 Tistous sans maison, 4 Carolus sans escalier, 4 Amélie sans cuisine. C'est donc avec ces machines-là qu'on perd son jardin, son pays, sa jambe ou quelqu'un de sa famille, mais en vrai.
Et toujours les marteaux tapaient, les forges chauffaient.
« Pour qui êtes-vous, monsieur Tronadis ?» demanda Tistou en forçant sa voix à cause du vacarme qui les entourait.
« Quoi donc ? Je dis pour qui êtes-vous dans cette guerre ?»«
Pour les vasis, » cria monsieur Tronadis.
« Et mon père ?»«
Aussi.
Pourquoi ?»«
Parce que ce sont depuis longtemps nos fidèles amis. »«
Évidemment, » se dit Tistou, « si on a des amis qui sont attaqués, il est juste de les aider à se défendre. »«
Alors ces canons-là s'en vont chez les vasis, » reprit-il.
« Celui de droite seulement, » cria M. Tronadis, « l'autre est pour les Vatans. »«
Comment pour les Vatans ?» s'écria Tistou indigné.
« Parce qu'ils sont aussi de bons clients. »
Ainsi, un canon de Mirepoix allait tirer contre un autre canon de Mirepoix et démolir un jardin d'un côté comme de l'autre.
« C'est cela le commerce, » ajouta M. Tronadis.
« Eh bien, je le trouve affreux, votre commerce. »«
Quoi donc ?» demanda M. Tronadis en se baissant, parce que les marteaux piqueurs couvraient la voix de Tistou.
« Je dis que votre commerce est affreux parce que... »
Plaf, une énorme gifle arrêta net. Le conflit entre les vasis et les vatans venait de s'étendre soudainement jusqu'à la joue de Tistou.
« Voilà ce que c'est la guerre. On demande une explication, on donne son avis et pan, on reçoit une gifle. Et alors si je faisais pousser du houx dans ta culotte, qu'est-ce que tu en dirais ?» pensait Tistou les yeux pleins de larmes, en regardant M. Tronadis.
« Parfaitement du houx dans tes pantalons ou bien des chardons. »
Il serrait les pouces. Et ce fut ainsi que l'idée, sa grande idée, lui vint. La leçon d'usine, vous le pensez bien, se termina là. Tistou reçut un 00, et M. Tronadis avertit immédiatement M. Père. Celui-ci fut extrêmement chagriné. Son Tistou, qui devait un jour lui succéder et devenir le maître de Mirepoix, montrait vraiment peu de disposition pour diriger une si belle entreprise.
Il faut que je lui parle très sérieusement, dit M. Père. Où est-il ?
Il est parti se réfugier chez le jardinier, comme d'habitude, répondit M. Tronadis.
Bon, nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, finissons les emballages.
En raison de l'urgence des livraisons, l'usine tournait sans arrêt. Toute la nuit, les 9 cheminées étaient couronnées de grandes lueurs rouges. Or, ce soir-là, M. Père, qui n'avait pas pris le temps de dîner, qui surveillait le travail de ses ateliers, du haut d'une petite tour vitrée, eut une bonne surprise. Son Tistou était revenu à l'usine et passait lentement le long des caisses de fusils, grimpait dans les camions, se penchait sur les moteurs, se faufilait entre les grands canons.
« Brave Tistou, » se dit Monsieur Père, « voilà un garçon qui cherche à rattraper son 00.
Allons, tout espoir n'est pas perdu. »
Tistou, en vérité, n'avait jamais paru ni si sérieux ni si affairé. Ses cheveux se tenaient tout droit sur sa tête. À chaque instant, il tirait de petits bouts de papier de sa poche.
« On dirait même qu'il prend des notes, » remarqua Monsieur Père.
« Pourvu qu'il ne se pince pas à mettre les doigts dans les mitrailleuses.
Allons, c'est un bon petit qui reconnaît vite ses erreurs. »
Monsieur Père allait avoir d'autres surprises. Se succèdent les nouvelles stupéfiantes. Personne n'ignore que les journaux ne parlent des guerres qu'en lettres majuscules. Ces lettres sont rangées dans une armoire spéciale. Et c'est précisément devant cette armoire en majuscules qu'hésitait le directeur de l'éclair de Mirepoix, quotidien bien connu. Le directeur tournait en rond, soupirait, s'épongeait le front, ce qui est toujours signe d'émotion et de perplexité. Cet homme-là était très ennuyé. Tantôt il se saisissait d'une grande majuscule, de celle que l'on réserve pour les grandes victoires, mais il la reposait immédiatement. Tantôt, il choisissait une des majuscules moyennes qui servent aux guerres qui ne marchent pas très bien, aux campagnes qui n'en finissent pas, aux retraites imprévues. Mais cette majuscule ne convenait pas davantage, elle retournait dans l'armoire. Un instant, il parut se décider pour que les toutes petites capitales, avec lesquelles on annonce les nouvelles qui mettent tout le monde de mauvaise humeur, comme « la route du sucre est coupée » ou bien « nouvel impôt sur les confitures ». Mais ces lettres-là non plus ne faisaient pas l'affaire, et le directeur de l'éclair soupirait de plus en plus fort. Vraiment, c'était un homme bien ennuyé. Il devait annoncer aux habitants de Mirepoix, ses fidèles lecteurs, une nouvelle tellement inattendue et si grave de conséquences qu'il ne savait comment s'y prendre. La guerre entre les vasis et les vatans avait échoué. Allait donc faire admettre au public qu'une guerre puisse s'arrêter net, sans vainqueur, sans vaincu, sans conférence internationale, sans rien. Le pauvre directeur eût aimé pouvoir imprimer sur toute la largeur de sa première page un titre à sensation tel que fulgurante avance des Vasi ou irrésistible attaque des armées Vatan. Il ne pouvait en être question. Les reporters envoyés sur la tache rose étaient formels. La guerre n'avait pas eu lieu, et son échec mettait en cause la qualité des armes livrées par la manufacture de Mirepoix, ainsi que les compétences techniques de M. Père, de ses ateliers, de tout son personnel. En somme, c'était d'un désastre qu'il s'agissait. Essayons, avec le directeur de l'éclair, de reconstituer le déroulement des tragiques événements. Des plantes grimpantes, rampantes, collantes avaient pris racine dans les caisses d'armes. Comment s'était-elle fourrée là? Pourquoi? Personne ne pouvait l'expliquer. Le lierre, la vigne blanche, le liseron, l'empélopsis des murailles, la renouée des oiseaux et la cuscute d'Europe formaient autour des mitrailleuses et des mitraillettes des revolvers un inextricable écheveau qu'aggravait encore la glu répandue par la jusquiame noire. Ces caisses, les Vasi comme les Vatan, avaient dû renoncer à les déballer. Les reporters, dans leurs dépêches, insistaient sur l'action particulièrement nocive de la grande bardane, plante dont les petites baies rouges sont munies de crochets. La grande bardane s'était agrippée aux baïonnettes. Que faire de fusils qui fleurissaient, de baïonnettes qui ne piquaient plus, et auxquels de jolis bouquets ôtaient toute efficacité? Il fallut les jeter aux poubelles. Inutilisables également les magnifiques camions, si consciencieusement zébrés de gris et de rose. La ronce piquante, le gratteur rond, et plusieurs variétés d'orties dont la brûlante poussaient en abondance sur les sièges, provoquant une urticaire immédiate chez les chauffeurs. Ces derniers furent les seules victimes de guerre. Les infirmières en voile blanc condamnèrent à l'immobilité et aux compresses tièdes ces soldats que de cruelles démangeaisons empêchaient de s'asseoir. Ici se place le piteux incident causé par l'impatiente « n'y touchez pas ». Qu'une modeste fleur des champs puisse déclencher une panique parmi des combattants s'explique si l'on sait que l'impatiente « n'y touchez pas » est pourvue de capsules qui s'éclatent au moindre contact. Les moteurs en étaient pleins. L'impatiente foisonnait dans le carburateur des automitrailleuses, dans le réservoir des motocyclettes. Au premier tour de démarreur, au premier coup de pédale, se produisaient, se répandirent, se généralisèrent des explosions sourdes qui ne firent aucun mal mais ébranlèrent fortement le moral des troupes. Passons aux chars. Leurs tourelles étaient bloquées. Des buissons d'églantines auxquels se mêlent la grande craca et la benoîte des buissons lançaient racines, grappes, pédoncules et rameaux épineux autour des mécanismes. Les chars étaient donc eux aussi inutilisables. Pas un appareil que la mystérieuse invasion ait épargné. Des plantes apparaissaient partout. Des plantes tenaces, agissantes et comme douées d'une volonté personnelle. Dans les masques à gaz se développait l'achillée sternutatoire. Le reporter de l'éclair affirmait que si l'on s'approchait à moins d'un mètre de ces masques, on se mettait à éternuer plus de 50 fois. Des herbes malodorantes s'étaient logées à l'intérieur des porte-voix. Les officiers avaient dû renoncer à l'usage de ces cornets où croissaient l'ail des ours et la camomille puante. Muettes, paralysées, inoffensives, les deux armées étaient arrêtées face à face. Les mauvaises nouvelles vont vite. Monsieur Père était déjà au courant. Et dans l'état de désespoir que l'on pense, ses armes fleurissaient comme des acacias au printemps. Il se tenait constamment en liaison avec le directeur de l'éclair qui lui disait au téléphone les navrantes dépêches. Il restait un espoir, les canons, les fameux canons de Mirepoix. Une action peut encore s'engager entre deux armées immobilisées, à condition qu'elles soient pourvues de bons canons, disait Monsieur Père. On attendit jusqu'au soir. Une dernière dépêche chassa toutes les illusions. Les canons de Mirepoix avaient tiré, certes, ils avaient tiré des fleurs. Une pluie de digitales, de campanules et de bleuets s'était abattue sur les positions des Vasi, qui avaient riposté, inondant les Vatan de renoncules, de marguerites et de stellaires. Un général avait eu sa casquette enlevée par un bouquet de violettes. On ne prend pas un pays avec des roses, et la bataille des fleurs n'ont jamais passé pour chose sérieuse. Entre les Vasi et les Vatan, la paix fut conclue dans l'heure. Les deux armées se retirèrent et le désert couleur de dragées roses fut rendu à son ciel, sa solitude et sa liberté.